Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens. Très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, un invité revient sur un jour important de sa vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, je reçois Geoffroy de la Gannerie. Bonsoir, Geoffroy.
Bonjour.
J'en bafouille. Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Geoffroy de la Gannerie, vous êtes sociologue,
oui,
et philosophe,
oui,
formidable. Et vous avez choisi comme journée particulière le 23 janvier 2002.
Oui.
Ce jour-là, le sociologue et philosophe aussi, Pierre Bourdieu, disparaissait.
L'éducation, les rapports hommes-femmes, les médias ou encore la politique, Pierre Bourdieu était passionné par notre société. Il l'a observé, analysé, commenté, sociologue et philosophe. C'était aussi un penseur militant connu dans le monde entier. Il s'est éteint hier soir à 71 ans.
Philosophe de formation, Pierre Bourdieu était considéré comme l'intellectuel qui, à partir des années 60, avait renouvelé la sociologie. Un regard acéré et percutant jeté sur la société française par un homme d'origine modeste qui avait accédé au plus haut titre universitaire. Passionné, souvent adulé, contesté parfois, cet homme de réflexion et d'action était avant tout un homme attentif à la condition humaine.
Ça vous plaît ? Vous pensez que c'est un bon résumé sur Pierre Bourdieu ?
Oui, attentif à la condition humaine, j'aime beaucoup, parce que je pense qu'effectivement, très souvent, on pense que la sociologie a un certain rapport avec la condamnation ou avec le jugement moral des activités des acteurs sociaux. Alors que je pense effectivement que l'une des choses les plus importantes, peut-être dans la sociologie, c'est d'arriver à avoir une forme d'empathie pour le monde social, pour ce qui se passe dans le monde, etc. Et d'être du côté de ceux qui souffrent, du côté de ceux qui luttent, du côté de ceux qui se battent. Et donc, effectivement, il y a une manière dans la sociologie de toujours mettre en question nos rapports premiers au monde, qui sont souvent des rapports de concurrence ou des rapports de haine ou des rapports de mépris, pour rentrer dans un rapport empathique avec les autres. Et donc je pense qu'effectivement c'est une assez bonne voie. Mais une chose qui me frappe aussi peut-être tout de suite
dans cette archive,
ouais, ce qui me semble très beau, c'est qu'est-ce que c'est que faire l'éloge d'un mort. Vous savez, Bourdieu est quelqu'un qui a été diffamé dans sa vie,
oui,
qui a été
beaucoup,
vraiment profondément attaqué tout le temps, vous voyez, dans les médias, dans l'université, dans tous les champs, enfin. Et c'est vrai que quand quelqu'un meurt, tout d'un coup, on se met à en faire l'éloge.
Oui.
Moi, j'ai souvent considéré que c'est un peu ce qui s'est passé avec le film sur ACT UP qu'a fait Robin Campillo,
oui,
qui était une association, une des plus diffamées peut-être dans l'espace politique et médiatique
avec
lorsqu'elle
battements
agissait, oui, mais qui maintenant qu'elle est un peu moins, au centre de la contestation politique, disons, même si elle est encore existante et elle fait encore des choses très importantes, tout le monde s'est mis à en faire l'éloge. Et donc c'est vrai qu'il y a une forme d'hypocrisie dans le monde social, moi, qui me gêne toujours un peu.
Donc c'est là, cette archive vous gêne pour ça ? Vous la trouvez un peu hypocrite ?
Alors, en fait, non. Elle me gêne pas pour ça, mais elle révèle qu'est-ce que c'est que mourir. Et je pense que mourir, c'est quelque chose pour un intellectuel d'un moment important, où en quelque sorte le monde social perçoit la perte. Perçoit qu'est-ce que c'est que perdre quelqu'un.
Mmh.
Vous savez, moi je crois beaucoup que les auteurs, c'est presque au poids. C'est-à-dire que c'est quantitatif. Ils incarnent par leur œuvre, par les concepts qu'ils ont créés, par leur démarche, quelque chose. Et quand on le perd, quand cette personne meurt, tout d'un coup, on réalise qu'on a perdu quelque chose.
Alors
on réalise une perte.
Quel est le poids là ?
Ouais, bah,
quel est le poids de la perte de Bourdieu ?
Bah, le poids de la perte de Bourdieu, c'est la perte de...
Pour vous.
Pour moi,
pour vous, Geoffroy de la Gannerie.
Bah, c'est vrai que moi j'ai choisi cette journée parce que c'était une journée très forte dans ma vie. Je me souviens très bien, j'étais à Janson de Sailly à cette époque, j'étais en Cagne.
Ouais.
Moi j'étais étudiant, on était à la bibliothèque et vers 17h, il y a toujours Le Monde qui arrivait.
Ouais.
Alors, moi j'étais pas du tout au courant avant qu'il était mort. Et tout d'un coup, arrive Le Monde et en pleine page comme ça, il y a marqué Pierre Bourdieu est mort. Alors moi je me souviens d'avoir pris le journal et d'être parti dans la petite cour qui était devant la bibliothèque et d'avoir pleuré. Et en fait, je me suis rendu compte après que c'était la première fois de ma vie que je pleurais pour un événement non personnel, pour quelque chose d'abstrait, pour quelqu'un que je connaissais pas, pour quelqu'un que j'avais jamais rencontré. Et je pense que ce que j'avais perdu, moi, c'était, déjà une voix qui dit la vérité. Quelqu'un qui portait une forme d'exigence de dire la vérité du monde social contre tous ceux qui veulent mentir ou qui veulent la dissimuler. Et puis aussi perdre un modèle, c'est-à-dire de quelqu'un qui incarnait ce que je voulais être.
Et à 21 ans, vous savez que vous voulez devenir sociologue et philosophe.
Non, mais
je sais. Vous voulez marcher dans les pas de Pierre Bourdieu.
Ouais, je sais que je veux produire des concepts. que je veux produire de la pensée. Ça, c'est quelque chose qui est absolument certain. Et après, dans le monde social, il y a des images de la pensée qui circulent. C'est-à-dire, à des moments donnés, il y a des gens qui incarnent quelque chose et vous pouvez vous situer par rapport à eux. Et après, ça résonne ou pas en vous, selon différentes choses. Et moi, très vite, Bourdieu a été quelqu'un de tout à fait fondamental. Déjà, la découverte, quand on est en prépa de Bourdieu, c'est un moment d'autoréflexivité très puissant, parce que Bourdieu, c'est quand même quelqu'un qui ne cesse de mettre en question l'arbitraire du concours, l'arbitraire du système scolaire.
Et de la reproduction des élites.
Exactement.
Donc vous étiez absolument dans le modèle de la reproduction des élites.
Alors j'étais dedans, mais la manière de Bourdieu fait, c'est que précisément, il vous permet de pas trop croire au jeu.
Mais justement, c'est une question que je voulais vous poser. Vous connaissiez Pierre Bourdieu? Vous l'aviez rencontré?
Non,
vous aviez été à ses séminaires? Vous
une
aviez
fois. Une J'ai fois. Un cours, une fois au Collège de France, dans le cours qui s'appelle Sciences de la science et réflexivité.
Et c'était comment?
Oui, c'était beau. C'était important. De toute façon, il y a un moment, vous savez, où à la limite, je sais même pas si je l'ai écouté.
Ça veut dire, vous avez fait... Vous...
J'étais là, j'étais heureux de le voir, d'être avec lui, il y avait un petit côté comme ça.
De l'écouter hésiter, parce qu'il hésitait toujours un peu.
Ben en fait, on n'entend pas ça, maintenant que c'est enregistré, je vois à quel point ses cours étaient assez mauvais, en fait.
Ouais.
C'est quelqu'un qui, à l'oral, était
pas un très bon orateur
très
du
mauvais.
Tout.
Non. Et des cours enregistrés qui ont été diffusés, on voit à quel point il hésite, il est tétanisé, c'est pas construit, etc. Donc c'est difficile, mais moi, sur le moment, j'ai vécu ça comme un moment d'une forte intensité. Et c'est vrai que c'est des moments importants, ça, parce que j'ai mesuré l'écart entre le type de savoir, le type d'éthos qu'on pouvait m'enseigner en cagne, un rapport un peu désincarné, un rapport un peu professionnel, quoi, et ce que c'était qu'être un grand penseur, ce que c'était qu'avoir quelque chose en plus. Vous savez, comme un peu la chanson « Elle là, elle là », si tu l'as, tu l'as. Vous voyez, il l'avait. Il avait ce je ne sais quoi, ce don du ciel qui le rendait beau.
Quelque chose en plus, qui le rendait beau.
Oui, et il avait ce quelque chose en plus. Et moi, le réfléchir après dans mes livres comme Logique de la création sur l'éthique intellectuelle, c'était un peu qu'est-ce que c'est les conditions pour produire ce quelque chose en plus.
Alors on comprend pourquoi cette journée du 23 janvier 2002 a été si importante pour vous, Geoffroy de la Gannerie. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back, 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 back again? Shady's back.
Shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor. Some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock. When I get shocked at the hospital by the doctor. When I'm not cooperating. When I'm rocking a table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating. Cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney. But your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me. So let me see. They try to shut me down on MTV. But it feels so empty without me. So... come on and dip, come on your lips. Fuck that, come on your lips and slum on your tits and get ready. Cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin! Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. Little hellions, kids feeling rebellious. Embarrassed, the parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless. Till someone comes along on a mission and yells, bitch! A visionary, vision is scary. Can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. So just let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass. And it's a disaster, such a catastrophe. For you to see so damn much of my ass, you ask for me. Well, I'm back, na-na-na-na-na-na-na-na-na. Fix your minutes and I'm tuning in. And then I'm gonna enter up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner. I'm interesting, the best things in wrestling. Investing in your kids' ears and nesting. Testing, attention please. Feel the tension, soon as someone mentions me. Here's my 10 cents, my 2 cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. La 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 la
Geoffroy de la Gannerie, ça c'est un des tubes de l'année 2002. Vous écoutiez ça?
Pas du tout. Mais moi, quand on est en Cagne, en Hippocagne, on vit dans un monde un peu fermé. Et on est fermé au monde, on est fermé à ce qui sort, on est fermé à la politique, on est fermé à la musique, on est fermé au cinéma. Il y a aussi des choses qui sont très importantes, souvent dans ce que dit d'ailleurs Bourdieu, qui est à quel point la condition de la production d'une élite vient à produire des cercles d'ignorance. C'est-à-dire, au fond, il y a une culture qui est légitime, qui va être la culture scolaire, la culture, la littérature, la philosophie, etc. Mais les écoles n'enseignent pas l'art, n'enseignent pas la musique, n'enseignent pas la variété, n'enseignent pas la danse. Et donc, on est
et
à la fois très cultivé.
On se frotte pas à la vie.
Ouais, on est à la fois très cultivé, mais complètement ignare. Et qu'est-ce que ce serait une école qui enseignerait la danse ou la performance et aussi légitimement que la littérature?
Et les
ça me paraîtrait
sociaux.
Un beau problème. Bah oui, exactement.
Alors, une journée particulière, ça continue jusqu'à 15h sur France Inter. Et c'est donc vous, Geoffroy de la Gannerie, qui est notre invité aujourd'hui. Et je rappelle que vous avez choisi comme journée particulière le 23 janvier 2002. Je parle aussi vite que vous à vous écouter. Ce jour-là, le sociologue et le philosophe Pierre Bourdieu disparaissaient.
Je viens d'un tout petit village du Béarn, du sud-ouest de la France, et d'une famille de tout petits fonctionnaires. Bon, mon père a accédé à la fonction publique très tard, après avoir passé, 25 ou 30 premières années comme fils de petit métayer pauvre. Bon, et il a donc été toujours dans une position tout à fait inférieure, quoi, dans le monde, y compris dans ce monde inférieur qu'est le monde rural. Voilà. Bon, donc mon enfance est marquée par une expérience de l'inégalité sociale, de la domination, et je pense que je n'en ai tiré aucun ressentiment. Au contraire, je n'ai que, en général, les gens qui sont dans ma position, qui ont fait des trajectoires qu'on peut appeler foudroyantes, qui viennent du plus bas pour aller au plus haut, en général, ils sont très heureux du monde social. Ce qui fait problème, c'est que je ne sois pas un universitaire heureux.
Pourquoi vous riez? Vous souriez, qu'il ne soit pas un professeur heureux,
ouais,
Pierre Bourdieu?
Un universitaire heureux, ça c'est très bien.
Qui était-il? Qui était ce Pierre Bourdieu? Et est-ce que c'est important pour vous, Geoffroy de la Gannerie, qu'il ne soit pas du sérail, justement, qu'il soit un fils de métayer pauvre, comme il le dit, oui, qu'il soit devenu professeur de sociologie au Collège de France? Est-ce que ça, c'est important? Ça compte pour vous?
Alors, en tout cas, ça compte pour lui, c'est-à-dire que ça compte comme un principe de licidité sur le fonctionnement du monde social. Je pense qu'au fait, ce qui est très très beau, c'est quand il dit que, paradoxalement, les transfuges sont très heureux du monde, puisque précisément...
Expliquer ce que c'est qu'un transfuge.
Les transfuges, donc précisément, c'est ceux qui ont quitté une classe dominée pour passer dans la classe dominante. Et très souvent, parce qu'ils ont été élus par les systèmes, et le système scolaire notamment, eh ben, ils vont faire l'éloge du système scolaire, puisque c'est ce qui les a reconnus. Et que donc, il y a très souvent un principe de conservatisme chez le transfuge, qui est d'adhérer aux institutions qui lui ont permis d'être ce qu'il est. Et c'est vrai qu'on trouve très très rarement, en fait, de transfuges qu'on peut appeler révolutionnaires, de transfuges qui mettent en question le monde. Bourdieu l'est, aujourd'hui, quelqu'un comme Édouard Louis, il incarne parfaitement dans la littérature. Et c'est vrai que l'idée d'être un universitaire pas heureux, pour moi, ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire qu'il met en question l'évidence des institutions culturelles. Et mettre en question ces institutions, ça veut dire mettre en question qui n'y est pas d'habitude, c'est-à-dire qui est exclu de ces institutions et en quoi toutes les institutions sont fondées sur ce que on peut appeler des exclusions constitutives, c'est-à-dire elles existent parce qu'elles excluent des gens de la possibilité d'y accéder. Et je pense que cultiver...
Oui, c'est-à-dire que si certains sont élus, pour que certains soient élus, ouais, d'autres doivent être exclus.
Voilà, le principe de la sociologie de Bourdieu, c'est très simple, c'est un mot, c'est que le réel est relationnel. C'est-à-dire que la grande phrase de Bourdieu, c'est que ce qui existe dans le monde social, c'est pas des individus, c'est pas vous, c'est pas moi, ce sont pas des personnes, ce sont des espaces de relations, c'est-à-dire des mécanismes de domination et d'infériorisation qui fait que lorsque quelqu'un bénéficie d'un certain nombre de privilèges, ça présuppose que d'autres sont exclus de l'accès à ces privilèges.
C'est ça la pensée de Bourdieu?
Ouais,
si vous deviez la résumer pour les auditeurs qui ne la connaissent pas, qui ne savent pas qui est Bourdieu, c'est ça que vous diriez,
voilà,
avant
ça,
tout?
Ça veut dire que nous n'existons que parce que nous sommes une position dans un champ. En gros.
C'est-à-dire
que
nous existons
que différents. Bah, si, ça veut dire, par exemple, dans les pratiques alimentaires.
Ouais.
Bourdieu, l'un des grands livres de Bourdieu, c'est La Distinction,
ouais,
qui est un livre sur les pratiques culturelles, les pratiques alimentaires. Et quand Bourdieu dit que le réel est rationnel, il veut dire, lorsqu'on a une pratique culturelle, on choisit d'aller dans un restaurant, par exemple, ou on choisit d'une boisson. Bon, en fait, il y a tout le monde social qui s'investit dans notre choix, parce que le fait qu'on va choisir une boisson, c'est une manière pour nous d'exclure les autres boissons et de mépriser les autres pratiques. Donc, par exemple, si vous prenez si vous prenez du vin blanc, je sais pas, dans un restaurant, en fait, ce que vous faites, c'est dit Bourdieu, c'est que vous ne choisissez jamais du vin blanc. Vous dites, je ne prends pas pas du vin rouge, je ne prends pas de la bière, je ne prends pas de l'eau, je ne prends pas du whisky, etc.
Parce
et donc,
que je
en fait,
suis.
Vous vous déterminez négativement par rapport au goût des autres. Et Bourdieu avait une phrase très belle là-dessus. Il disait on n'a pas de goût. En fait, c'est pareil qu'on a des goûts. Il dit on a des dégoûts. Notre goût, c'est le dégoût du goût des autres.
Ouais,
c'est-à-dire
ça,
que c'est parce
magnifique.
qu'on est dégoûté des autres qu'on se met à avoir un goût. Et donc, en fait, même ce qu'on vit comme le plus intime est toujours une manière de reproduire des systèmes de domination par rapport à ceux qui n'ont pas accès à ces pratiques ou qui ont accès autrement. Et que par conséquent, il n'y a pas de possibilité d'être sociologue sans avoir un peu de malaise par rapport à soi-même, parce que ça signifie que tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait exerce une violence sur ceux qui sont exclus de la possibilité de faire ce qu'on est, ce qu'on fait.
C'est pour ça que vous écrivez que la sociologie empêche de vivre la vie en bonne conscience,
voilà.
Et que d'une certaine manière, elle empêche de vivre sans culpabilité d'être soi. C'est
oui.
Cette culpabilité de savoir qu'en étant soi-même, on exclut. C'est
oui,
ça?
Exactement.
Et on est toujours forcément le dominant de quelqu'un.
Oui, exactement. Les rapports sociaux sont des rapports de domination. Et les rapports sociaux,
ils sont
vrais.
La société, c'est la guerre.
Et le rôle de la sociologie, c'est d'essayer de faire en sorte de révéler cette guerre pour pouvoir donner des armes aux dominés pour ne pas la perdre.
C'est ça la sociologie?
Oui.
C'est donner des armes aux dominés?
Oui, exactement. C'est son but, c'est
sa
fonction.
Mais pas forcément pour devenir des dominants, mais pour comprendre les rapports sociaux dans lesquels ils sont pris.
Pour casser les systèmes de domination, oui. Mais je dirais qu'il n'y aurait pas de sociologie dans un monde parfait.
Est-ce que la sociologie pense en termes de classe sociale, qui est un mot qui a disparu de notre langage, qui est presque désuet. Mais est-ce que vous pensez, vous, Geoffroy de la Gannerie, en tant que sociologue, est-ce que vous pensez en termes de classe sociale?
Ah oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a des classes sociales de manière évidente. Je pense que c'est pas parce que les gens ne le disent pas qu'ils ne savent pas qu'il y en a. Moi, je crois que le monde social fonctionne
en mensonge. On pense encore comme ça dans la société?
Bien sûr. Mais je pense que les dominés, les ouvriers, les précarisés, quand vous avez une grève comme récemment des femmes de ménage de la gare du Nord, elles sont très conscientes qu'elles appartiennent à une classe et qu'elles font le ménage chez des individus qui les payent pour faire le ménage dans des appartements ou à la gare.
Ça ne veut pas dire qu'on pense en termes de classe.
Ça veut dire qu'on a conscience qu'on n'a pas accès à un certain nombre de choses et c'est ça la classe sociale, après peu importe le mot. Et le principe n'est pas que le mot est disparu, le principe c'est que des gens se battent pour dénier cette réalité et par conséquent pour pouvoir justement la continuer leur vie sans avoir à assumer le fait que s'ils ont des privilèges, c'est qu'ils ont pris l'argent à ceux qui la produisent.
Donc c'est ça, rapport de domination.
Ouais.
Et c'est comme ça qu'on doit comprendre.
Mais alors sur la classe sociale, je vous ai répondu sur l'économie, mais je pense que l'un des grands principes de Bourdieu,
c'est sur la culture.
Voilà, ça a été quand même de dire une chose très importante, c'est de dire qu'en fait, en gros, dans les sociétés contemporaines, la grande misère a été abolie. Les inégalités économiques sont plutôt réduites grâce à l'État social, alors qu'il est démantelé aujourd'hui, mais qui est quand même un principe important de la redistribution. Et que ce qui a été un des grands principes de la reconstruction des distances sociales, ça a été la culture.
L'accès à la culture.
Ouais, le rapport à la culture, l'accès à la culture, et qu'au fond, la violence des rapports économiques qui était un petit peu atténuée s'est reproduite dans la violence des rapports culturels. Et Bourdieu dit très souvent, de manière très très belle, que peut-être il n'y a rien qui fait plus honte aux gens que d'une faute de goût. Voilà. Et terrorisé de ne pas savoir, vous êtes dans un dîner, vous ne savez pas qui est Victor Hugo, vous ne savez pas quel dernier livre,
vous
etc.
Vous ne savez pas comment prendre vos fourchettes et votre couteau.
Voilà, vous ne savez pas prononcer un nom d'auteur, etc. Et alors ça produit
ça,
chez les
honte.
Individus la honte. Voilà. Ça produit des phénomènes de distance sociale énormes. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que la culture, qui est très souvent présentée comme un lieu de l'émancipation, un lieu de l'accomplissement
lieu de
l'esprit
soumission.
Humain, en fait, c'est l'un des principaux instruments de la reproduction des distances sociales dans des sociétés qui ont combattu la grande misère.
Alors je pensais, moi, pour avoir un peu potassé Geoffroy de la Gannerie avant de vous recevoir, que Bourdieu, c'était avant tout le penseur du déterminisme.
Oui, absolument.
Oui. Je dirais que nous naissons déterminés et nous avons une petite chance de finir libres. Nous naissons dans l'impensé et nous avons une toute petite chance de devenir des sujets. C'est-à-dire on ne naît pas le sujet de ses pensées, on devient le sujet de ses pensées à condition, entre autres choses, je pense qu'il y a d'autres instruments, il y a aussi la psychanalyse, etc., à condition de se réapproprier la connaissance des déterminismes.
Alors ça me semble très important, Geoffroy de la Gannerie. Est-ce que j'ai bien compris ce que dit Pierre Bourdieu, c'est qu'on ne peut devenir libre que si on est conscient de ses propres déterminismes. Et
ouais.
Alors là, à partir de ce moment-là, on peut commencer... Mais c'est à travailler sur soi, en fait,
ouais.
Dans son rapport au monde.
Oui, alors moi, j'y crois pas du tout à cette théorie de Bourdieu.
Ah, bah c'est pas formidable, pourquoi?
Je n'ai jamais compris pourquoi il voulait toujours sauver la liberté en disant, mais bien sûr, moi j'y crois à la liberté, mais seulement au prix de l'arrachement au déterminisme.
Alors vous pensez qu'il n'y a pas de liberté?
Oui, je pense qu'effectivement, je pense que c'est une alternative fausse. Il y a un très bon exemple que prend Didier Ribon dans Retour à Reims sur l'exclusion.
Faut que vous présentiez Didier Ribon.
C'est un sociologue et philosophe français, peut-être l'une des figures les plus importantes aujourd'hui à l'échelle internationale. Et qui a publié ce grand livre qui s'appelle Retour à Reims, et sur sa trajectoire, mais aussi un essai de théorie politique du sujet, et où il réfléchit sur l'auto-élimination des catégories populaires du système scolaire. C'est-à-dire le fait que ses frères, par exemple, se sont tous exclus du système scolaire, mais ils l'ont fait volontairement.
Les frères de Didier Ribon.
Ouais, il est fils de sa maman est femme de ménage et son père était ouvrier. Et voilà, les gens, ils partent du système scolaire, le travail, l'école c'est pas pour nous, moi je veux travailler, pourquoi on nous oblige à aller à l'école jusqu'à 16 ans, moi j'aime le travail, j'aime pas la culture, etc. Et donc les garçons partent de l'école à 14, 15, 16 ans. Mais ils vivent pas du tout ça comme un déterminisme, ils le vivent comme un choix. Mais pourtant, si jamais vous vous mettez au niveau des déterminations statistiques, vous voyez que comme par hasard, à qui plaît l'école, c'est aux enfants de la bourgeoisie comme moi, et à qui déplaît l'école, c'est aux enfants des catégories populaires comme ses frères. À partir de ce moment-là, vous voyez bien qu'on peut très bien être totalement déterminé par un système à produire un certain nombre de comportements et l'accomplir sur le mode du choix. Et donc en fait, il n'y a pas du tout de différence entre la liberté, si vous voulez. Ils ont vraiment choisi, hein. On ne peut pas le dire qu'ils n'ont pas choisi, ils ont exercé leur libre arbitre, mais ils l'ont fait dans des conditions et avec des habitudes
mais déterminé par déterminé
complètement déterminé. Et donc moi je pense que le principe de la sociologie c'est que ce qui existe ce ne sont pas des réalités individuelles.
D'accord, c'est-à-dire qu'on s'intéresse pas à l'individu.
Voilà, moi je pense que l'une des grands pièges
de la sociologie ne s'intéresse pas à l'individu.
Voilà, d'être en permanence obsédé par les individus. Vous savez, est-ce qu'on est déterminé, comment est-ce qu'on est, de faire une réduction de la sociologie sur la question individuelle.
Et moi je pense que
la
sociologie c'est ça qu'on pouvait faire avec Bourdieu,
oui, c'est ce que j'aurais pensé l'autonomie du social. C'est d'ailleurs en gros la phrase pour moi si on veut résumer la sociologie, c'est la société ça existe.
Il est interdit de salarier un homme. Démission à la moustache du capitaine. Hé, patron, prends ça dans ta trompe. L'économie, c'est un truc qui s'enlaille, un truc qui nous rabaisse, un truc qui nous salit. Mais on est plus grand que ça, nous, papy, on a des ailes. Économie, ça veut dire radinerie. Un sou est un sou. Mais nous, on s'en cogne, on va tout voler, on va tout donner comme ça, gratos, ça vous faire boule. L'économie, c'est la science de l'avarice, le royaume des enculés.
Ça vous plaît ? Ce qu'on vient d'entendre, ça
beaucoup.
Vous fait rire, ça vous fait sourire.
Ça me fait marrer.
Ça s'appelle les Villards, ouais. Voilà. On va un peu parler politique, là. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on est toujours avec vous, Geoffrey de la Gannerie, jusqu'à 15h sur France Inter. Et je rappelle que vous avez choisi comme journée particulière le 23 janvier 2002, ce jour-là, Pierre Bourdieu. Votre maître, on peut dire maître ?
Oui.
Votre maître disparaissait. Et votre maître, donc Pierre Bourdieu, pensait que la sociologie était un sport de combat.
Moi, je suis un peu déçu par une chose. C'est que le thème du débat, c'est effectivement une réflexion avec Bourdieu sur les inégalités face à l'éducation et la culture. Moi, ce que j'avais envie, j'aurais espéré que Mounir et un certain nombre d'autres gens disent un certain nombre de choses là-dessus.
On nous ramène des profs qui ont 20, 22 ans. On leur a déjà couvé le crâne. Si vous voulez être muté, vous pouvez passer dans la réserve, faire vos classes. Et après, vous pourrez aller dans votre Toulouse natale ou dans votre, je sais pas, Cantal, je sais pas où. Et ben, les gamins, ils sont pas dupes. Ils sentent tout ça. On demande des lieux culturels. On nous répond par un grand hôtel de police avec des statues, soi-disant, pour dire qu'eux aussi sont dans la culture. Mais si vous enlevez ces statues, vous savez pas ce que vous allez voir. Vous allez voir que l'hôtel de police et l'agressivité qu'il représente. Ça sert à rien, Bourdieu, il est là. Bon, moi, je parle des inégalités, de ce que j'ai vécu localement, en plus en tant que travailleur social. J'ai contribué là où vous êtes assis, là même. C'est nous-mêmes qui l'avons construit. Et tout le temps, il était vide parce que les gens avaient peur de venir au Val-Fouré. Maintenant, Bourdieu est là, tout le monde est là. Voilà, quoi, j'ai fini maintenant. Si vous voulez parler à Bourdieu, c'est pas Dieu, c'est Bourdieu.
Par rapport à tout ce qu'il a dit, il y a beaucoup de vrai. Mais il y a une chose que je trouve fausse et que je voudrais te dire, Saïd, c'est que ce centre culturel, mais c'est pas à eux de venir, hein, c'est pas à ces gens-là de venir. C'est à nous de venir, c'est aux gens du quartier ici de venir. C'est à nous de bouger, c'est à nous de faire les choses. Faut pas attendre que les autres les fassent pour soi.
La différence, nous, c'est qu'on doit faire toujours des efforts et des concessions.
Ce qui s'est dit, je ne sais pas si je dois dire ça, m'a beaucoup intéressé. Je pense que si au moins ma venue a servi à faire sortir ces choses qui se sont dites, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors si j'ai fait un tout petit peu d'agit-propre, et si ça a un tout petit peu réussi, je serais très content. Voilà. Alors un des problèmes est de savoir comment continuer l'agit-propre. Est-ce qu'il faut créer une association? Est-ce qu'il faut créer un lieu de discussion? Et que l'agit-propre devienne autogéré, et que les agités deviennent agitateurs, agitateurs d'eux-mêmes d'abord. Et voilà, je serais vraiment content, je n'aurais pas été complètement inutile. Voilà.
Alors vous avez reconnu, hein, Geoffroy de la Gannerie, c'est un extrait du film « La sociologie est un sport de combat » réalisé par Pierre Carle. Et dans cette séquence, donc, on n'en a pris qu'un tout petit bout malheureusement parce qu'il y a 30 minutes absolument formidables. Pierre Bourdieu était donc invité au Val-Fouré pour dialoguer sur l'égalité dans la culture et dans l'éducation. Et ça a suscité beaucoup de colère, il s'est fait rentrer dedans, comme souvent on lui rentrait dedans, il l'agaçait. Oui. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il dit « il faut que l'agitation » fasse que les gens deviennent eux-mêmes les désagités de leur propre agitation. Oui. Enfin bref, est-ce que vous pensez que la sociologie, Geoffroy de la Gannerie, être sociologue, est-ce que c'est être un agitateur? Est-ce que vous êtes un agitateur? Est-ce que vous voulez faire de l'agit-propre?
Oui, absolument. Moi, je pense que le propre même de la pensée, et qui n'a de sens que comme ça, c'est si jamais elle permet d'être en opposition avec le monde et de le mettre radicalement en question. Vous savez, moi, un des mouvements qui m'intéresse beaucoup dans le mouvement social aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le cortège de tête. C'est-à-dire ces individus qui vont en début de manifestation pour les rendre un peu plus agités, justement, pour un peu casser la routine syndicale. Et moi, c'est vrai que j'aimerais être un peu le cortège de tête de la théorie. C'est-à-dire d'essayer, dans la théorie, d'avoir une pratique plus agitée, plus oppositionnelle, plus violente, en quelque sorte, et qu'il s'agit, de ce point de vue-là, de mettre en question non pas seulement les institutions, mais aussi les dispositifs de production des opinions.
Vous aimez la violence. Il y a quelque chose dans la violence qui vous intéresse. J'ai cru comprendre ça, Geoffroy de la Gainerie.
Alors moi, c'est vrai que je l'ai beaucoup dit, mais c'est pas beaucoup dit d'ailleurs, c'est pas vrai, mais enfin, je l'ai beaucoup dit à des amis, mais moi, quand j'ai fait mes premières manifestations lycéennes, à ce moment-là, ça cassait à la fin. C'était souvent d'ailleurs des jeunes des quartiers populaires qui venaient pour aller agresser les étudiants. Je me souviens d'une manif à Nation, ça avait été très chaud, je me souviens, aux Invalides. Il y avait des agressions avec la police, etc. Les étudiants, souvent, ils partaient à ce moment-là, ou les lycéens. Et moi, je restais toujours.
Pour castagner ?
Non, parce que moi, j'avais un côté un peu shrill à ces moments-là. Je pense qu'il y avait un mot, c'était bien. Ça m'a toujours plu, ces moments-là. J'ai toujours ça comme moments de vérité.
Ça vous plaisait ?
Ouais. Il y avait quelque chose qui me plaisait. Je suis pas du tout quelqu'un de violent physiquement, et de ce point de vue-là, je pense que je suis pas quelqu'un de courageux. Il y a une très belle phrase de Foucault qui dit « il n'y a de courage que physique ».
Ouais.
Je pense que c'est très juste. Non, voilà, je suis pas quelqu'un qui me met en danger. Et je suis pas quelqu'un qui m'expose à l'appareil répressif d'État, pour dire la chose
mais
comme
quoi, ça.
Mais
quoi, ça vous excitait, mais cette violence?
Non,
cet
je pense que ça dit quelque chose de la, d'une part de la vérité du monde social et d'autre part du fait que l'un des sentiments essentiels pour moi du monde social, c'est l'étouffement. C'est le fait que les gens, ils étouffent dans leur vie. Ils étouffent dans leurs conditions de travail, ils étouffent dans leur milieu, ils étouffent dans la dureté du monde. Et qu'à des moments, bah, quand on étouffe, bah, on casse. Voilà. Et donc, je pense que c'est des moments très importants d'affirmation d'une forme de subjectivité politique authentique. Et donc, je pense que pour moi, ça a toujours été des moments très importants. Et de ce point de vue-là, qu'est-ce que ça voudrait dire être l'homologue de ces moments d'authenticité contre l'étouffement dans la théorie? C'est un peu exactement le type de geste que j'essaie d'accomplir.
Ça veut dire que la fin de manif, ça pète, oui. Et vous restez et vous analysez, vous regardez, vous... qu'est-ce que vous faites?
Vous savez, je vais dire un truc qui va peut-être un peu choquer, mais il y avait un slogan qui était en 2016, au moment des 15, au moment 10 de la loi travail, qui était sur les panneaux. Et où les panneaux publicitaires avaient été cassés et avaient remplacé par des très beaux slogans, d'ailleurs, très souvent. Et il y en avait un, c'était « Je pense, donc je casse ». Et moi, ce slogan, il m'a bouleversé. Je me suis dit, c'est vraiment très beau cette idée, je pense, donc je casse. C'est-à-dire, pas casser au sens de violence physique, mais au sens de mettre en évidence le fait qu'une certaine forme de supplément de conscience par rapport à la vie ordinaire, en quelque sorte, amène nécessairement à avoir un rapport beaucoup plus confrontationnel avec les objets du monde social. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que pour moi, ça a toujours été des moments de vérité. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose de
vous
la
auriez
vérité.
Envie de casser, vous?
Non, j'aurais pas envie de casser du tout, parce que je pense que en l'occurrence, c'est une idée qui Édouard Louis dit souvent, qui est qu'on peut être victime de la violence qu'on exerce. C'est-à-dire, on peut être victime de la violence qu'on subit, mais on peut être aussi victime de la violence qu'on exerce, parce que ça peut être aussi une manière de retourner ou d'incorporiser la violence des dominants et seulement de la ressortir.
Alors, expliquez-moi.
Et de ce point de vue-là, moi, je pense que quand on casse, par exemple, en début de manif et qu'on se livre à l'appareil répressif d'État, parfois ça peut être intéressant, mais très souvent, à mon avis, c'est une manière de se resoumettre à l'appareil répressif, de reprendre des formes codées du courage ou de l'émeute qui, en fait, vous expose à l'appareil répressif d'État sans produire vraiment de progrès objectif. Ouais. Par rapport
à la cause.
Ce qui ne veut pas dire qu'il faut renoncer à la violence. Ce qui veut dire, selon moi, qu'il faut trouver dans la gauche des moyens d'avoir une violence autonome. C'est-à-dire d'arriver à produire une violence qui serait effective par rapport aux luttes qu'on veut mener. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore, à mon avis, vraiment trouvé et qui m'intéresserait un petit peu, moi.
Mais vous m'amusez parce que je vous regarde là. Vous avez l'air tout gentil comme ça et je pense donc je casse. Toute cette violence en vous, qui ne se voit pas.
Bah, ça me voit un peu quand j'écris.
Oui, c'est ça. Mais qui ne se voit pas quand on est à côté de vous, comme là.
Non.
Alors, il y a d'autres violences sur lesquelles vous vous êtes penchée, c'est les violences policières.
Je suis Assa Traoré, sœur d'Adama Traoré. Il est décédé le jour de son 24e anniversaire, à la suite de son interpellation par les gendarmes. Il a rendu l'âme dans les locaux de la gendarmerie de Persan. Ces gendarmes ne l'ont pas aidé à vivre, mais l'ont aidé à mourir. Mon frère Adama n'est pas le premier mort asphyxié par les représentants de l'ordre. Il s'ajoute à une longue liste. Je tiens à rendre hommage à toutes les familles de victimes dans le désespoir, en quête de justice et vérité. Transformons ce désespoir en espoir pour une lutte digne et forte.
Geoffroy de la Gannerie, c'est Assa Traoré qu'on vient d'entendre, la sœur d'Adama Traoré. Oui. C'était un extrait de ses vœux diffusé sur le site de Mediapart. Assa Traoré se bat pour que la vérité soit faite sur la mort de son frère en juillet 2016 dans un commissariat lors de son interpellation. Et il se trouve, Geoffroy de la Gannerie, que vous soutenez son combat. Ouais. Vous êtes à ses côtés.
Oui.
C'est un combat au nom du droit?
Oui, je pense que c'est un combat pour moi qui est vraiment l'un des combats les plus importants d'aujourd'hui. Et je pense que ce qui se passe autour de Assa Traoré, autour du comité Vérité pour Adama, qui rassemble d'ailleurs beaucoup de gens qu'on a pu entendre dans l'extrait de Bourdieu, des travailleurs sociaux, des gens comme Amélie Canouté, comme Youssef Brakni, qui sont des militants des quartiers populaires depuis longtemps et qui sont aussi autour de cette lutte, des gens qui sont moins reconnus dans l'espace médiatique mais qui jouent un rôle tellement important. Et ce qui est très très beau autour de cette lutte, à mon avis, c'est qu'elle essaye de faire deux choses. C'est-à-dire que d'une part, c'est une lutte effectivement au nom du droit. C'est-à-dire que c'est une lutte qui essaye de dire, moi, je veux qu'on respecte mes droits en tant que citoyenne dans l'état de droit, etc. Et que, paradoxalement, c'est l'État qui ne respecte pas le droit. C'est le procureur qui va mentir, c'est la maire qui va empêcher d'accéder à l'espace.
Mais c'est ça, c'est l'État qui est hors la loi quand il s'agit de la violence de la police.
Exactement. Et en fait, ça veut dire que l'État ne se comporte pas comme un État de droit. C'est-à-dire l'État ne reconnaît pas Adama Traoré comme étant quelqu'un qui est des siens et qu'il faut protéger, mais comme quelque chose qui est un ennemi qu'il faut abattre. Il faut quand même, il y a un scandale majeur dans cette histoire qui est que Adama Traoré n'est pas recherché, n'est pas dangereux, il court dans la rue. et les gendarmes se mettent en tête de le poursuivre et vont le tuer. Bon, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gendarme pour courir après quelqu'un qui ne présente aucun danger, qui n'est pas recherché, qui n'est rien du tout, qu'ils connaissent d'ailleurs, puisque c'est des gendarmes du quartier.
Et là, c'est et là où le sociologue intervient.
Oui, alors ça, pour moi, c'est vraiment la preuve qu'il y a un inconscient policier, un inconscient de l'arrestation, un inconscient de, il y a un inconscient racial aussi de qu'est-ce que c'est que la figure du noir qui court comme figure dangereuse dans l'espace public et qu'on décide d'aller attraper, voire avec le danger de la mise à mort. Et de ce point de vue-là, il y a dans le combat d'Assa Traoré, il y a une, si vous voulez, une forme de croisement entre les problématiques de l'ordre gendarme ou l'ordre policier, de la question raciale, de la question de l'espace public et de la question du droit, qui fait qu'elle reconstruit le monde à partir d'un combat local. Et de ce point de vue-là, cette manière de réagencer le monde à partir d'un petit combat, de recroiser l'ensemble des questions politiques aujourd'hui, c'est vraiment un combat pour moi révolutionnaire, à la fois révolutionnaire du point de vue des structures sociales et aussi du point de vue de nos structures mentales.
D'accord, c'est pour ça que vous êtes à ses côtés.
Oui, absolument. Et je pense que toute la gauche devrait se mobiliser autour d'eux. Et moi, j'avais été à la marche à Beaumont l'année dernière pour les 1 an de la mort d'Adama Traoré. Et je serais frappé qu'il y avait très peu de personnalités de la gauche. Et je pense que des associations, des hommes politiques, et je pense que c'est l'un des combats les plus essentiels pour la gauche aujourd'hui, pour les catégories populaires, pour les Noirs et les Arabes, pour la question de la police et de l'état de droit. Et que ça devrait vraiment être l'un des centres de la préoccupation de la gauche aujourd'hui.
Et pour l'avenir de nos sociétés.
Absolument. Et pour l'avenir de nos sociétés et le présent, puisque les garçons contrôlés par la police, c'est tous les jours, c'est tous les jours. On sait qu'en gros, 80% des garçons noirs et arabes sont contrôlés au moins une fois par an par la police, ce qui n'est vrai que pour 10% des jeunes blancs. Et donc, pour eux, c'est une omniprésence de la police dans leur vie. Et très souvent, on peut dire qu'il y a deux jeunesses en France. Il y a une jeunesse blanche qui va évoluer dans le système culturel et éducatif, et une jeunesse noire et arabe qui va évoluer dans le système pénal et policier, et qui a une espèce comme ça de distribution des vies qui est vraiment insupportable. Et que par conséquent, le rôle de l'intellectuel, si vous voulez, c'est d'essayer
justement,
de radicaliser et d'accompagner cette lutte le plus possible.
Alors vous l'accompagnez comment, vous, Geoffroy de La Gannerie, en tant que sociologue, comme sociologue, vous l'accompagnez comment? Vous mettez des mots sur certaines choses? Comment vous êtes présent dans cette lutte? De quelle façon?
Je pense que l'intellectuel, il doit utiliser le capital symbolique qu'il a pour démultiplier en quelque sorte les effets politiques de la lutte telle qu'elle est menée au niveau local par les acteurs et essayer de la transposer à des espaces. Ouais, l'amplifier, exactement. C'est un truc d'amplification. Je dirais même que c'est un système, vous savez, j'avais pris cette métaphore dans une lettre à Assa Traoré que j'avais publiée dans le Bondi Blog, qui était porter la plainte pour eux. D'essayer de la relayer et de leur soulever un peu le poids pour essayer de le mettre dans des espaces où ils n'auraient pas accès, où ils n'ont pas le temps, etc.
D'accord, c'est et là donc, où
vraiment,
vous êtes.
Ouais, exactement. Porter la plainte pour les autres et essayer de démultiplier la plainte.
C'est l'affrontement. Boulevard Saint-Germain, les pavés de l'émeute volent. 10 000 étudiants sont dans les rues engagés dans une lutte acharnée avec les policiers.
Alors ça, c'est une archivina de 1968. On n'en peut plus de 1968, Geoffroy La Gannerie. C'est pour ça que je vous en fais encore écouter un peu, si jamais vous aviez loupé tout le début de toutes nos commémorations. Il se trouve que vous, Geoffroy de La Gannerie, vous avez beaucoup réfléchi à l'impuissance politique de la gauche et vous remettez en cause ce mythe de mai 68 et vous pensez qu'il nous entrave.
Oui.
Et moi, je pense que c'est très important de vous entendre en ce moment sur ça. Pourquoi ça nous empêche? Pourquoi ça nous immobilise, mai 68?
Vous savez, c'est un truc très important, ça, dans l'éthique intellectuelle, c'est d'essayer de voir de quelle manière est-ce qu'il y a du négatif dans le positif. C'est-à-dire de quelle manière est-ce que quelque chose qui se présente comme positif est en fait négatif. Et je pense, moi, que de ce point de vue-là, la célébration de 68, c'est-à-dire des gens qui vont dire que c'était un grand moment, qui vont essayer d'en faire l'éloge, pour moi, ça peut être une manière aussi, paradoxalement, de construire notre impuissance politique aujourd'hui et de produire des formes d'intelligence du réel qui nous empêchent d'être puissants aujourd'hui. Et qu'il y a peut-être une certaine haine du présent dans l'éloge de 68. Il y a une certaine manière de construire 68 comme le moment politique parfait, comme le moment politique qu'il faudrait reproduire, qui au fait est une manière de ne pas vouloir voir ce qui se passe aujourd'hui, la manière dont la politique se fait aujourd'hui, la nécessité de critiquer à gauche nos formes d'action traditionnelles pour devenir plus efficaces, et peut-être qu'il y a une certaine manière de ne pas vouloir être agissant politiquement aujourd'hui dans le fait de faire l'éloge des formes d'action passées. Vous voyez ce que je veux dire ?
Très bien.
Et de fait, moi je crois beaucoup que 68 a été un moment important, majeur, enfin il n'y a aucun problème par rapport à ça, mais qu'en même temps, dans la manière dont nous héritons, nous avons l'impression que nous devons reproduire 68 si nous voulons refaire la révolution.
C'est-à-dire tout pareil, les mêmes manifs, des slogans, selon les mêmes modes.
Exactement.
Et qui sont désuets aujourd'hui,
or, précisément,
qui ne fonctionnent pas.
Le principe de la politique, c'est l'épuisement des formes d'action. C'est-à-dire que les formes d'action, elles ont une histoire, elles s'intègrent elles se routinisent, comme disent les sociologues, c'est-à-dire que leur caractère disruptif, elles peuvent devenir des formes conventionnelles de protestation. Je pense que la grève a été une forme révolutionnaire, a été une forme qui a produit vraiment des choses, d'une crise très importante à la fin du 19e ou en 36, etc. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore une forme d'action efficace, la grève? Moi, j'en suis pas du tout certain. C'est-à-dire que si jamais nous voulons faire 68 aujourd'hui, il faudrait trouver des formes d'action qui seraient l'équivalent de la grève. C'est-à-dire qu'est-ce serait l'équivalent d'une grève? Par exemple, moi j'avais dit dans un texte en Allemagne, est-ce que par exemple à la grève générale, on pourrait pas substituer un moment de leaking général, de fuite générale, c'est-à-dire où tout le monde ferait fuiter tous les secrets qu'il connaît pendant un jour sur Internet? Et est-ce que ce serait pas ça l'équivalent de la grève générale aujourd'hui, d'un processus de désaffiliation par rapport aux institutions, une journée de general leaking, vous voyez, plutôt que general strike? Bon, voilà, ça serait une manière inventive de repenser les formes d'action.
Et ça, c'est le rôle du sociologue aussi. C'est comme ça que vous voyez votre rôle du sociologue, Geoffroy de la Gannerie?
Oui.
C'est-à-dire chercher ces nouveaux modes d'action,
alors,
réfléchir
les modes d'action,
à ce que
très
ça pourrait
souvent,
être.
Ils existent. C'est-à-dire, ils sont inventés par les individus, par les acteurs. Par exemple, le leaking, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Julian Assange, c'est Edward Snowden, c'est Chelsea Manning, etc. Mais très souvent, quand des gens produisent des actions nouvelles, ils sont des militants, ils ne sont pas des intellectuels. Et ils n'ont pas les instruments de pensée pour penser ce qu'ils font. Et il y a toujours un principe fondamental de la sociologie, c'est que les individus n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils font quand ils le font. Et de ce point de vue-là, le rôle, par exemple, de l'intellectuel, c'est d'essayer d'aller dégager la positivité ou la singularité des gestes qu'ils ont accomplis, que les acteurs eux-mêmes ignorent, et en les rendant à ce moment-là plus conscients, de pouvoir radicaliser leur fonctionnement et de pouvoir avoir un rapport
plus
efficace au présent.
Alors là, c'est plus que de l'agite propre.
En tout cas, non, c'est de l'agite propre, mais en tout cas, c'est une certaine manière de penser l'intellectuel comme quelqu'un qui va être attentif aux luttes, trouver des manières d'être attentif au présent tel qu'il se pose aujourd'hui, et à partir de ce moment-là, radicaliser les dispositifs en permettant d'évaluer leur force subversive possible.
Alors vous êtes encore plus dangereux que ce que je pensais,
ah bon,
parce que vous pensez à radicaliser.
Vous savez, je suis pas dangereux, hein, c'est l'ordre social qui est dangereux. C'est l'ordre social qui fait souffrir les gens, c'est l'ordre social qui crée des morts, c'est l'ordre social qui crée des gens en prison. Moi, je suis pas dangereux.
Ah mais moi, je pensais être dangereux pour l'ordre social, évidemment.
D'accord.
Vous parlez de radicaliser, d'aider à radicaliser les mouvements. Quel mouvement vous soutenez et que vous aidez comme ça à se radicaliser?
Alors moi j'ai toujours comme
très
choix
vite,
de prendre,
pour qu'on ait une idée, hein,
de prendre les luttes orphelines. C'est-à-dire un petit peu, je sais qu'il y a beaucoup d'espaces de lutte, et il y a des luttes sur lesquelles je m'exprime moins parce que je sais qu'il y a déjà beaucoup d'intellectuels qui font le travail dessus et que c'est très important.
Alors vous,
moi
j'essaie
de voir les petites luttes, les luttes où il n'y a pas encore vraiment de voix intellectuelle pour les soutenir. Donc la lutte évidemment sur les violences policières autour de Assa Traoré est pour moi une lutte absolument essentielle. Aujourd'hui je m'intéresse beaucoup à un groupe de militants animalistes qui s'appelle 269 Libération Animale, qui repense l'action directe dans sa contestation du sacrifice des animaux et qui va occuper des abattoirs, libérer des animaux, et qui a une pensée de la dissidence, de la désobéissance, de l'action directe.
Il statue eux-mêmes des numéros sur les bras.
Absolument, c'est un peu d'un rite d'entrée, je crois, dans l'institution, mais c'est pas tellement ça qui m'intéresse, c'est plutôt cette manière de penser la politique par l'action efficace, par l'action directe, et pas seulement par des formes routinisées d'action. Donc ça me paraît très très important. Je m'intéresse beaucoup aux mouvements antifascistes, qui je pense que sont aujourd'hui l'une des formes de subjectivité les plus importantes. On a parlé du cortège de tête, mais plus généralement, les mouvements antifascistes, parce qu'ils interrogent la question de la manifestation, parce qu'ils interrogent la question de la violence politique, parce qu'ils interrogent la question du free speech. Ils posent tout un ensemble
La
croyance dans le fait qu'il faut protéger la liberté de discours et le droit formel le droit de parler. Et les mouvements antifas sont des mouvements qui interrompent des conférences, qui vont empêcher des conférences, qui vont perturber. Par exemple, il y a eu un grand mouvement à Berkeley, à l'université de Berkeley en Californie, quand un idéologue proche de Trump avait une conférence qui était annoncée. Ils sont venus empêcher cette conférence en manifestant violemment, en cassant le lieu, etc. Il y a eu toute une polémique aux États-Unis, savoir est-ce que les antifas mettent en question le free speech. Une doctrine notamment sacrée de la démocratie qui est que tout le monde a le droit de parler. Et eux, ils disent oui. Effectivement, on met en question ce droit formel et on considère que la protection des faibles est plus importante que la protection d'un droit formel. C'est des questions importantes.
Que la protection d'un
droit formel.
D'accord.
Et ça, je pense que c'est une question intéressante et importante aujourd'hui, la question du free speech.
Qui vous interroge ou qui vous séduit?
Alors, c'est typiquement ce que je vais vous dire, c'est que je ne sais pas quoi en penser, mais je sais que là, il y a un discours qui m'interpelle et à partir duquel je dois penser quelque chose. Voilà, je n'ai pas ma réponse, mais
c'est
je sais que eux me posent une question que je ne me posais pas avant eux.
C'est ça, vous vous interrogez sur ces mouvements de lutte orpheline.
Voilà. Émerge Assa Traoré, tout d'un coup, une question se pose à moi. Je me dis, j'avais pas pensé, il faut que je la pense. 269 Libération Animale dit, nous, on va pas faire des manifestations, on va aller occuper des abattoirs. Je me dis, ah, est-ce que l'action directe, c'est pas plus intéressant que la manifestation? Les antifas disent, nous, on est contre le droit formel du free speech, on est pour protéger les minorités des discours violents et haineux. Je me dis, ah, bah, ça, peut-être que j'ai un inconscient que j'avais pas analysé et il me pose une question. Et donc, vraiment, pour moi, voilà, soutenir ces petits groupes qui aujourd'hui font émerger plein de questions, ça me paraît tellement important. Et mon rôle comme intellectuel, c'est ça, c'est d'être au contact de ces questions qui sont posées par les militants et à partir de ce moment-là, construire un discours un peu autonome.
Tout ça pour construire une société nouvelle,
ouais,
où les rapports de domination serait inversé ou serait différent ou différent.
Exactement.
Mkanu tala yorojana alema sosirima katana, allez, je m'en sens déguimé. Nderini, nderini, abe disa, nijarabi, ma fe gagnalo nihala. Nderini, nderini, abe disa, ne kanu, I want to know.
Sur France Inter.
Alors dans la dernière partie de l'émission, Geoffroy de la Galerie, je reprends tous les événements, enfin des événements importants de l'année de votre journée particulière, donc c'est l'année 2002. En 2002, l'euro devient la monnaie officielle en France. Daniel Pearl, le journaliste américain, est décapité par les membres d'Al-Qaïda. Ingrid Betancourt est enlevée par les FARC alors qu'elle est candidate à l'élection présidentielle en Colombie. Maurice Papon est libéré pour des raisons de santé. Et Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur à l'époque, ferme le centre de Sangatte. Ça vous parle tout ça? Vous étiez en train de bûcher dans la bibliothèque de Jean-Saëns de Sailly?
Non, mais j'ai honte, mais de fait, oui, je sais que le fait d'être en Hippocagne ou en Cagne fait qu'on n'a aucun rapport à l'actualité politique. Et moi, tous ces événements-là, je les ai, peut-être l'euro, parce qu'on a dû changer son argent, mais à part ça, j'ai strictement aucun rapport à tous ces événements-là. Je les ai absolument pas vus passer.
Ce qui est très paradoxal avec tout ce que vous venez de dire.
Ouais, non, mais parce que j'ai changé. Et je me suis arraché au système scolaire pour pouvoir être ce que je suis. Mais c'est vrai qu'il y a une manière, quand on est en Cagne, qui est assez belle d'ailleurs aussi, d'avoir un temps autonome, et que parfois, le débat Descartes-Leibniz est quelque chose de plus brûlant pour vous que ce qui va passer aux 20h de TF1. Il y a quelque chose de comme ça quand on est en Cagne.
Ouais. Mais alors, vous vous souvenez quand même qu'au second tour des élections présidentielles, Le Pen, le Front National, est arrivé jusqu'au second tour.
Voilà, ça je m'en souviens très très bien. Ça je me souviens très bien parce que j'avais regardé les résultats, mais je me souviens aussi que je n'avais pas du tout voté et que je m'étais à peine intéressé à la campagne parce que précisément, mon concours était le lendemain. Commençait le lendemain.
Le concours de Normale Sup.
Ouais, commençait le lundi dans mon souvenir. Et donc, j'avais strictement pas du tout tellement d'intérêt pour ça. Et j'avais regardé les résultats à la télé, mais voilà, et j'étais retourné travailler. Alors le dimanche d'après, j'étais allé à la grande manif qui avait eu lieu pour protester contre les résultats, ça je me souviens très bien, ou le samedi, je sais plus quand est-ce que c'était, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est peut-être le seul événement politique de cette année dont je me souviens en fait.
Donc vous regardez les résultats de cette élection, vous en prenez acte, ouais. Vous retournez bosser, ouais. En écoutant cette musique-là.
Pas la peine de se retourner. Tableau décroché, la grève s'efface. Y a plus de traces. Et moi je vis ma vie à pile ou face. Tous mes sentiments à pile ou face. Indifféremment à pile ou face. Et de temps en temps, un coup je passe, un coup je casse.
Elle est comme vous, vous dites. D'un coup, je casse. En fait, c'était une chanson prémonitoire. Alors, c'est Emmanuel Béart qui chante. Et alors, c'est un vrai plaisir de vous faire plaisir. Geoffroy de la Guillerie.
Déjà, j'adore Emmanuel Béart. Je pense que c'est vraiment quelqu'un de très important et très puissant que j'ai eu la chance de rencontrer récemment. Et c'est vraiment pour moi l'une des rencontres les plus belles que j'ai faites récemment. Emmanuel Béart, c'est aussi l'église Saint-Bernard. Ouais. C'est aussi l'occupation de l'église Saint-Bernard pendant un mois. Le fait d'avoir été arrêté, d'avoir été maltraité par la police, d'être allé témoigner au journal de France 2 avec des prises de position très belles et très importantes. Et puis, cette chanson, c'est 8 femmes de François Ozon. Et je me souviens que, vous savez, quand on interroge, on demande des goûts culturels. On ment.
Oui, c'est ça, on donne des choses, on dit ce qu'on...
Il y a une très belle phrase de Bourdieu qui dit « Quand vous interrogez les gens sur leur goût, ils répondent jamais. Ils répondent, ce qu'ils estiment être le plus proche de la réponse qu'ils devraient donner. Mm. Et ils donnent jamais la vérité. » Et moi, la vérité, c'est qu'effectivement, en Cagne, j'écoutais beaucoup de variétés et j'écoutais beaucoup le disque de 8 femmes avec, je sais plus s'il y a 8
chansons.
Et quoi
d'autre comme variété qui serait de mauvais goût, entre 15 guillemets?
Non, c'est pas de mauvais goût, mais c'était Jean-Jacques Goldman, c'était Zazie, c'était des choses comme ça. Enfin voilà, moi j'écoutais ça tout le temps. Parce que de fait, travailler avec des chansons que je connaissais, c'était ce qui me permettait d'avoir de la musique. Je travaille toujours en musique, mais il ne faut pas que la musique m'empêche de travailler. Donc il faut que ce soit une musique un petit peu quotidienne que je connais par cœur. Et donc effectivement, les goûts que j'ai eus vers 14-15 ans, bah, je les ai écoutés jusqu'à 22 ans. Et de fait, ça, moi je trouve que le 8 femmes était un film très très beau. Et je sais que dans la communauté gay ou la communauté lesbienne, ça a été un film qui a beaucoup marqué, parce qu'il y a le personnage de Firmin Richard, il y a une esthétique gay. Et il y a vraiment quelque chose de très très émouvant, très puissant dans ce film. Et voilà, j'étais content qu'on puisse entendre Emmanuel Béart.
Et oui, et puis vous êtes mis à danser. Mais alors, en 2002, vous n'écoutiez pas seulement Emmanuel Béart, vous écoutiez ça aussi en boucle.
Spinoza, à mon avis, il nous dit lui-même, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est pas la manière dont vous êtes jugé. C'est que finalement, quoi que vous fassiez, c'est toujours vous qui vous jugez vous-même. Ce qui vous juge, c'est pas des valeurs qui vous seraient extérieures. C'est les affects qui viennent remplir votre mode d'existence. Ce qui vous juge, c'est la nature de vos tristesses et de vos joies. Donc, vous vous jugez vous-même. Et là, Spinoza serait sans pitié, hein, parce qu'il a à la fois des côtés extrêmement tendres et puis des côtés extrêmement durs, on le sent à travers les textes. Il y a des choses qu'il ne supporte pas. Il ne supporte pas l'homme qui se fait souffrir lui-même. Il ne supporte pas toute la race des masochistes, des dépressifs, il ne supporte pas. Il pense que c'est la misère, que c'est le fond de la misère. Et Spinoza va très loin, il nous dit, c'est des gens tellement contagieux et qui ne veulent que ça, répandre la tristesse. Il faut être sans pitié sur eux. Ils se jugent eux-mêmes.
Alors, je dois vous remercier, hein, Geoffroy de la Gannerie, parce que je ne connaissais pas ce CD, donc des cours que Gilles Deleuze a donné sur Spinoza. Et en 2002, on vous a offert ce CD.
Oui, absolument. On me l'a offert pour mon anniversaire.
Et vous le connaissez par cœur?
Ben, franchement, je pense que je l'ai écouté 200 fois, ce disque. Et je pense qu'il y a un moment, plus maintenant, mais je le connaissais par cœur du début à la fin.
Et c'est pas en contradiction avec Bourdieu, hein? Il se juge même.
En fait, il y a quelque chose pour moi qui est très, très important. C'est très cruel, hein, de dire ça. On est responsable. Enfin, on se juge soi-même. N'allez pas vous plaindre.
Vous avez toujours
la vie que vous méritez. Mmh. Mais il y a une chose qui est très, très belle pour moi et qui m'a suivi au fond jusqu'à mon livre Jugé. Et parfois, c'est bizarre comme on découvre quand on travaille, même 20 ans après, que finalement, ça nous a suivi une idée. Et cette idée très belle que dit la Deleuze, à savoir qu'il n'y a pas d'autonomie du jugement. Mmh. Et donc, en quelque sorte, tout jugement est factice. Le fait de juger quelqu'un, c'est toujours en décalage par rapport à la vérité de sa vie. Et que le système du jugement est un système qui est faux par rapport à la compréhension des modes d'existence. Et au fond, moi, quand j'ai fait mon livre « Juger l'état pénal face à la sociologie », c'était de dire, voilà, dans le système du jugement, dans le système de l'état pénal, de la répression, bah, les juges, ils construisent une manière de raconter le monde qui est toujours en décalage par rapport à la vérité des vies. Et il y a cette espèce d'inintérêt ou de méchanceté dans le fait de juger quelqu'un qui, au fond, a peut-être été un effet 15 ans après de l'écoute de ce disque centaines de fois en 2002.
Alors, on a une petite surprise pour terminer cette émission. Les filles de l'émission, qui sont Flora Bernard et Rebecca de Nantes, ont trouvé que vous aviez une certaine ressemblance avec un personnage de cinéma. Je vous laisse deviner quoi.
Qui je suis? Vous êtes sûr que vous voulez le savoir? Si quelqu'un vous a dit que je n'étais qu'un type comme tout le monde, qui ne s'en fait pas dans la vie, ce quelqu'un a menti. Je suis Spider-Man.
Vous voyez pas?
C'est Peter Parker.
Oui!
Vous savez quoi? Je vais vous dire une petite anecdote. Dites-moi. Je vais très souvent acheter des sandwichs à un magasin rue du Cherche-Midi. Et là-bas, ils m'ont appelé Peter Parker. Et donc parce qu'ils trouvent que je lui ressemble aussi. Souvent, j'y vais après le sport et j'ai la tête qui sort de la douche, etc. Et voilà, ils m'ont dit que vous ressemblez à Spider-Man, à Peter Parker. Mais j'ai oui, très bien, ça me va très bien, il est beau, c'est bien.
Il est beau et puis il a des pouvoirs.
Et puis il a des pouvoirs.
Et il change la société.
Exactement. Bon. Et il le fait au nom de la loi contre la loi. Donc ça me va très bien.
Merci Geoffroy de la Gannerie d'avoir passé cette heure avec nous. On peut venir vous écouter au Carreau du Temple à Paris le 18 avril prochain pour dialoguer avec deux... Le 11 avril prochain pour dialoguer avec deux photographes et reporters du collectif L'Œil. Toutes les informations sont sur le site de l'émission ainsi que les références des ouvrages de Pierre Bourdieu et aussi des vôtres. C'était une journée particulière, une émission préparée par Rebecca de Nantes et par Hugo Combe qui a eu l'idée de vous inviter à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique Gilles Gaillard. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission et la réécouter un peu comme Spinoza, oui. Autant de fois que vous voulez. Tout de suite, après le flash, vous retrouverez Vincent Jeance et son grand atelier.